Les femmes et les hommes dont nous allons parler cet après-midi veulent à tout prix avoir un enfant et devenir parents, mais ils sont infertiles. Et très souvent, ces personnes qui sont prêtes à tout pour fonder une famille se trouvent confrontées aux limites de la loi française avec l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. La psychanalyste Geneviève Delhaizy de Parseval raconte dans un livre son expérience clinique quotidienne face à ceux qu'elle appelle la tribu des infertiles, terme qu'elle emprunte volontairement à l'ethnologie pour montrer la singularité de ces patients en mal d'enfant. Ce livre voyage au pays des infertiles, paraît aux éditions Odile Jacob. Et Geneviève Delhaizy de Parseval, vous êtes l'invitée de La Tête au Carré. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Villard.
Vous êtes psychanalyste, spécialiste des questions de filiation et de procréation, membre associé des principaux centres de bioéthique dans le monde. Et dans cet ouvrage, vous racontez donc votre pratique clinique pendant 9 mois, de septembre 2013 à mai 2014. L'occasion de découvrir pendant cette gestation les histoires individuelles des personnes que vous rencontrez autour de la procréation et puis de comprendre bien sûr les questions que pose l'infertilité. Et puis nous sommes également en ligne avec vous, Israël Nizan, bonjour.
Bonjour.
Depuis les studios de France Bleu Alsace, vous êtes gynécologue, obstétricien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, professeur des universités puisque vous enseignez les sciences humaines à la faculté de médecine de Strasbourg. On va se retrouver, Israël Nizan et Geneviève Delhaizy de Parseval, dans la deuxième partie donc pour parler de procréation assistée et puis également de sujets récents dans l'actualité sur lesquels vous souhaitez réagir ensemble, comme cette proposition des entreprises américaines Apple et Facebook de payer la congélation d'ovocytes afin de permettre à leurs employés de repousser leur grossesse. On se retrouve avec les messages des auditeurs, toutes les questions, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Le quiz scientifique, pour terminer, ce sera avec Florence Porcel. Violaine Ballet réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le mercredi jour du ciel et de l'espace dans la tête au carré avec Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On a trouvé de la glace en enfer.
Oui, pour la première fois, la sonde américaine Messenger a photographié de la glace sur Mercure. Alors la nouvelle est à la fois étonnante et presque attendue. Étonnante parce que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil et qu'il y règne une chaleur d'enfer. Dans ces conditions, on voit mal comment de l'eau pourrait s'y trouver à l'état de glace,
mais oui.
Qui plus est. Mais la nouvelle est aussi quelque part un peu attendue parce que les spécialistes, ça fait plus de 20 ans qu'ils soupçonnaient l'existence de cette glace et qu'en 2012... la sonde Messenger, déjà elle, avait décelé sa présence.
Alors comment est-ce qu'il peut y avoir de la glace sur une planète aussi chaude ?
Eh bien, Mercure est en effet à 58 millions de kilomètres du Soleil. Pour comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Contrairement à la Terre, Mercure n'a pas d'atmosphère pour réguler sa température. Il y fait donc environ 430 degrés sous le Soleil.
C'est chaud, oui.
C'est chaud. On imagine bien qu'il ne peut pas y avoir de glace à cet endroit.
Oui. Hein.
Mais il y fait moins 180 degrés à l'ombre ou côté nuit. C'est exactement comme sur Titan qui est à plus d'un milliard de kilomètres du Soleil.
Ça fait une amplitude énorme donc, entre le chaud et le froid. Hein.
Absolument. Et Mercure tourne sur elle-même. Donc toutes les parties de la surface alternent jour et nuit, et ce qui a priori interdit l'existence de glace. Sauf
qu'en réalité,
Mercure a un axe de rotation qui est très perpendiculaire à son orbite. Et il existe des endroits, aux deux pôles, où le Soleil ne parvient jamais. C'est le fond de certains cratères d'impact situés donc très près des pôles où jamais les rayons du Soleil n'arrivent. Et c'est là que, dès les années 90, des observations radio menées depuis la Terre avaient permis de soupçonner l'existence de glace.
Alors donc cette glace avait déjà été détectée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau du coup, Philippe, là ?
Eh bien, c'est le fait que la sonde Messenger l'ait photographiée. Jusqu'ici, on avait réalisé une détection, certes, mais quelques peu indirect. La sonde avait confirmé les observations radio des années 90, donc via deux instruments, un spectromètre à neutrons et un altimètre laser, dont la croisée des données avait permis de dire qu'il y avait, dans les cratères polaires, donc, de bonnes quantités d'hydrogène. Or, qui dit hydrogène sur une planète, en gros, dit eau ou glace. Cette fois, des photos ont été prises. Recoupées avec les données de ces deux instruments précédents, elles confirment qu'il y a de la glace en surface, et même mieux, elles disent que cette glace n'est pas très ancienne.
Et ça veut dire quoi alors du coup ?
Alors pas très ancienne, cela reste malgré tout exprimé en temps géologique. Donc peut-être des millions d'années. Mmh. Mais jusque-là, on pensait que la glace datait d'au moins un milliard d'années, voire plus. Et parce qu'on supposait qu'elle avait été apportée par des chutes d'astéroïdes ou de comètes. Nous avons eu dimanche d'ailleurs la belle illustration que cela arrive. La comète Siding Spring qui est venue frôler Mars à seulement 140 000 km. Bon, il n'y a pas eu d'impact. Mais à peu de choses près, il y avait collision. Et la comète aurait ajouté sa glace à celle de la planète Mars. Aujourd'hui, ce genre de collision dans le système solaire est très rare. Mais il y a encore un milliard d'années, les planètes étaient encore abondamment vraiment bombardée. Donc on pensait que la glace de Mercure datait de cette époque, et qu'elle avait perduré. Or, là, on voit une limite nette entre les zones glacées et les zones non glacées, ce qui, pour les géologues, est signe de jeunesse.
Et qu'est-ce que ça signifie alors exactement ?
Les auteurs de la découverte ne le disent pas. Mais on peut imaginer que Mercure a été plus souvent bombardé par des comètes qu'on ne le croit. Peut-être est-ce la trace, par exemple, d'une famille de comètes, comme il en existe autour du Soleil, et on le verra dans quelques heures autour d'autres étoiles. Ce sont des comètes qui, déviées par des planètes, suivent toutes une même trajectoire et elles peuvent croiser la trajectoire d'une autre planète et donc s'écraser sur elle. MESSENGER finira sa mission en mars 2015, donc on risque d'être un peu à court de données. Mais en août 2015, une autre sonde européenne, BepiColombo, sera lancée à nouveau en direction de Mercure pour tenter d'en arracher de nouveaux secrets.
Mais il n'y aura pas de carottes de glace qui seront
effectuées,
c'est dommage.
Encore, on ne se posera pas encore sur
Mercure. Ce serait formidable pour en savoir plus. Merci Philippe, et on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Ciel et Espace. Une motel avec My Type sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Voyage au pays des infertiles, Geneviève Delizier de Perceval. Vous publiez donc cet ouvrage aux éditions Odile Jacob. C'est un journal de bord de votre expérience clinique quotidienne, donc auprès de ces femmes et de ces hommes en mal d'enfant. Nous serons rejoints dans la deuxième partie de l'émission par le gynécologue obstétricien Israël Nizan. Et pour parler de l'infertilité, de la procréation assistée, les auditeurs nous rejoignent donc sur franceinter.fr et sur le hashtag l'attaque. À peu près 10%, c'est ça, en France, Geneviève Delezit-Perceval, de la population connaîtrait, en tout cas, à un moment ou un autre de sa vie, un problème d'infertilité.
Exactement.
Hein, c'est les chiffres qui sont admis aujourd'hui.
Absolument. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont définitivement infertiles, ce sont des gens qui sont passés, à un moment ou l'autre de leur vie, par ces parcours.
Pourquoi est-ce que vous avez souhaité raconter votre pratique dans ce carnet de bord et sur un temps, on le comprend, 9 mois, évidemment, aussi court?
Eh bien, parce que je me suis dit depuis quelques années que ma clinique avait changé depuis le nombre d'années que je m'occupe de ce sujet, qu'il y avait vraiment un changement épistémologique très important, que ce changement m'affectait en tant que personne, en tant que psychanalyste, en tant que personne. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'étais vraiment très, non seulement fatiguée le soir, mais troublée par ce que j'avais entendu. Parce que finalement, par empathie, je m'identifiais à ce que disaient ces patients. Et même si je suis psychanalyste, je suis néanmoins femme et mère de famille. Je prends un exemple tout de suite, peut-être ça permettra de faire comprendre de quoi je parle dans ce livre. Un cas très classique maintenant, qui n'était pas le cas autrefois, c'est un couple qui a un premier enfant à 30 ans. Âge statistique moyen. Ensuite, ils attendent 2 ou 3 ans pour trouver un appartement, le boulot, etc. Ils s'y remettent à 34 ans. Et à 34 ans, on découvre que la femme a eu un déficit ovarien. Et on leur dit, il faut soit adopter, soit recourir à un don d'ovocytes. Bon, don d'ovocytes qui est permis en France par la loi, sauf qu'il y a 3 ans d'attente. Alors, quand vous avez 34 ans, pas question d'attendre 37 ans. Bon. Donc, leurs gynécologues leur disent allez en Espagne ou en République tchèque, ce qu'ils font. Donc, ils sont tout de suite balancés dans une histoire compliquée où ils ont un premier enfant dit biologique et un deuxième enfant avec un don de gamètes. Bon, si vous voulez, c'est le reflet de la société, parce que ce sont des cas qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, où les femmes procréaient plus jeunes et elles faisaient leur plein d'enfants à 32 ans, puis c'était fini. Il y a des histoires comme ça, il y en a 3 par jour qui sont différentes.
Et là, il faut mettre des lunettes d'ethnologue, justement, pour comprendre ce nouveau peuple, au fond, qui a émergé.
Oui,
c'est un peu comme ça que vous le présentez.
Moi, ça m'a aidé, c'est-à-dire que je me sens, à force de les entendre, je me sens en faire partie moi-même de cette peuplade. Non pas que je sois infertile, mais je suis immergée dans ce terrain, comme disent les ethnologues, dans ce champ clinique. Et je me sens les comprendre très bien.
Donc vous comprenez leur langage? Parce qu'il y a tout un langage,
tout un
au sens propre.
Absolument,
hein. Vraiment,
sens propre.
Il y a un vocabulaire absolument hallucinant.
Absolument.
Il faut vraiment avoir la traduction souvent.
Et exemple, une patiente qui me dit « Oh, je vais faire mon 3e petit tec. » Alors au début, je ne savais pas. Tec, c'est transfert d'embryon congelé. Mais il y en a plein comme ça.
Oui. Plus ou moins heureux d'ailleurs. Hein.
Plus ou moins heureux.
Le vocabulaire employé dans ce domaine. Oui. Donc il y a ce langage, effectivement. Et ce peuple infertile, c'est comme ça que vous le nommez?
Ce peuple infertile, qui se comprennent entre eux, et que je crois bien comprendre maintenant, certainement mieux que je ne le faisais il y a 10 ans.
Vous le comprenez mieux, et c'est un peuple visiblement qui vous touche beaucoup aussi.
Oui, qui me touche beaucoup. Il y a des jours où je suis vraiment très, très émue. Je prends un autre exemple rapide. Une femme qui a fait des années de FIV, elle attend enfin un enfant, et cet enfant à l'échographie est trisomique, c'est d'une violence, une violence terrible. Ou une autre femme que j'ai vue, je le raconte dans le livre, je crois, je ne suis pas sûr, qui a essayé d'avoir un enfant pendant longtemps, elle est enceinte et elle demande une IVG. Bon, alors, la réaction médicale, c'est elle est folle, enfin, elle veut un enfant ou elle ne veut pas un enfant? C'est ambivalent.
Et au cœur donc de la vie des personnes infertiles, il y a l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, dont vous dites, en tout cas c'est une proposition que vous faites très personnelle, qu'elle pourrait être la 4e blessure narcissique. Alors la première étant Copernic, la deuxième étant Darwin, la troisième étant autoproclamée par Freud. Donc vous proposez la 4e, pourquoi alors? Une blessure narcissique?
Mais parce que, blessure narcissique, parce que un enfant, ça se faisait dans le secret de... du ventre maternel. Maintenant, un enfant, on le fait dans une, on peut le faire dans une éprouvette. Et donc l'embryon est libre. Et cet embryon libre, on peut le remettre dans l'utérus de la mère qui attend l'enfant, ou dans l'utérus d'une autre mère. C'est toute la problématique des mères porteuses.
Oui.
Enfin, c'est quelque chose qui est complètement étonnant. Et on peut, certains auteurs de science-fiction s'amusent à dire que dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne fera plus d'enfants sous la couette, comme on dit, mais oui, uniquement par AMP.
Ouais. Et tout ça, ça bouleverse les esprits, évidemment, parce que ça pose plein de questions.
Ça pose plein de
sociales, philosophiques, éthiques. Et ça aussi, vous avez été confronté à toutes ces questions qui ont émergé d'un coup, au fond, grâce aux techniques dont on
Absolument.
Avait...
Absolument. Enfin, elles n'ont pas émergé d'un coup, elles ont émergé petit à petit. Mais tous les ans, il y en a une nouvelle.
Ouais.
Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, il y avait l'utérus, une greffe d'utérus. Bon, enfin,
tout, première mondiale.
Première mondiale. Mmh. Enfin, il n'y a pas de mois ou de, mettons, de 6 mois où il n'y a pas une découverte nouvelle qui amène à se reposer plein de questions que les patients entendent, parce qu'ils sont des citoyens comme nous, et ils écoutent la radio, regardent la télé, ils lisent les journaux, et ils réfléchissent en fonction de leur propre parentèle, de leur propre vécu, des rapports hommes-femmes, etc.
Est-ce qu'il y a souvent un parcours du combattant, justement, pour ces couples qui se lancent dans l'aventure, justement, de la procréation assistée ?
Il y a presque toujours un parcours du combattant. Parce qu'on commence piano, et puis au fur et à mesure que ça ne marche pas, on vous propose autre chose. Mais le stress... monte. Et puis, pour les femmes, nous, les femmes, nous sommes limitées par cette fameuse horloge biologique que maintenant, les Américains, peut-être on va en parler, essaient de nous faire dépasser.
Oui.
Les hommes sont plus cool.
Ouais.
Parce qu'ils savent qu'ils peuvent procréer plus tard,
ouais,
encore que.
Le fait d'aller consulter un psy, justement, au milieu de ce parcours, est-ce que c'est quelque chose de très fréquent ? Et au fond, les gens viennent vous voir pourquoi, alors ?
Ah,
pour
ça,
parler
c'est...
des difficultés,
oui,
auxquelles ils sont confrontés ?
Ça, c'est une très bonne question, cher Mathieu. Moi, je voulais intitulé mon livre « L'infertilité, un mal à dire ». C'est-à-dire, comment trouver les bons mots pour se raconter à soi-même son histoire.
Mm-hmm.
Parce que des mots, ils en ont plein, ils ont des mots médicaux. Mais ce qu'ils voudraient, c'est parler de ce que ça représente pour eux. Une femme est enceinte, sa sœur ne l'est pas, son frère est responsable d'une IVG. Enfin, ça a des échos dans chaque famille. Et trouver les mots, des mots qui sont humains, familiaux, ils n'ont pas de lieu pour en parler. Ils ont un lieu médical, ils sont bien soignés en général. La question n'est pas de la qualité du soin,
mm-hmm,
c'est parler autour de,
ouais,
autour de ça.
Sauf que quand ils viennent vous voir, ils vont voir un psy, mais ils viennent voir une ethno-psychanalyste.
Oui, mais ils ne le savent pas forcément.
Oui, mais c'est quand même, ça fait partie de votre parcours. Et c'est aussi le regard que vous posez sur eux, hein,
oui,
qui n'est pas tout à fait le même.
Absolument. Et puis ils ont regardé mon site, ils voient que je suis un peu une personne bizarre.
Ah bon, pourquoi ? En quoi vous êtes bizarre ?
Bizarre parce que j'ai un parcours un peu atypique.
C'est-à-dire ?
Justement, que j'ai fait de l'ethnologie.
Ouais.
Et je crois que ça les intéresse. Ils savent que je ne suis pas une psychanalyste classique, au sens où je ne vais pas leur dire « allongez-vous », par exemple. Ces patients-là, je ne les prends jamais en analyse. Je me sers de mon bagage de psychanalyste pour me permettre de donner le punch pour écouter,
mm-hmm,
mais je les reçois en face à face. Dans 98% des cas.
Ouais.
Donc déjà, ça ne colle pas avec l'image du psychanalyste.
Et vous dites d'ailleurs aujourd'hui, il faut connaître son psychanalyste. En tout cas, vous, ça ne vous dérange pas qu'on vous connaisse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous donnez des éléments aussi intimes de votre vie. Hein, puisque c'est vraiment
vrai,
votre vie de tous les jours qu'on suit dans ces 9 mois.
Mais d'abord, j'ai l'âge que j'ai. Je ne l'aurais probablement pas fait il y a 10 ans.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai tout même une bonne culture psy. Et du temps de Freud, tout le monde savait tout sur tout.
Oui.
Tout le monde était en analyse avec le collègue de Freud, son copain, et ça nage au point que Freud avait sa propre fille en analyse. C'est un peu exagéré.
Oui.
Mais enfin, je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas...
Voilà. Pourquoi entourer d'un voile d'opacité, au fond, le psychanalyste auquel on a affaire ? On peut avoir
quelques
éléments de sa vie...
Pour prendre encore juste un petit exemple, beaucoup de patients viennent me voir parce qu'ils savent que je ne suis pas homophobe. Et je leur dis « Pourquoi venez-vous voir moi ?» Ben, ils me disent parce qu'on sait, tenu compte de vos positions publiques, que vous n'êtes pas homophobe.
Oui.
Ils n'iraient pas voir un psy qui leur...
Même si vous parlez assez peu de l'homoparentalité, au fond.
Oui, parce que
pendant ces 9 mois.
Oui, je me suis donné comme règle de ne pas de prendre les cas qui venaient. Il se trouve que j'en ai eu peu cette fois-ci. C'est le hasard. L'année d'avant, j'en avais beaucoup plus.
Oui. Alors, parmi les questions soulevées justement par l'AMP, il y en a énormément. On peut aborder, par exemple, les embryons congelés. C'est une question qui vous intéresse, pose aussi des problèmes psychiques aux personnes qui font face à cette question-là. Hein.
Absolument. C'est un problème philosophique et psychologique très compliqué. Les gens qui font des AMP, en général, quand ça marche, ils ont des embryons qu'on leur transfère chez eux, c'est normal pour eux. Mmh. Et en général, il en reste des embryons. On les appelle des surnuméraires, c'est pas très joli. En tout cas, ils sont dans les congélateurs des hôpitaux. Mmh. Et ensuite, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez en faire ? La loi dit, tous les deux ans, il faut leur demander. Bon, alors, à un moment, au début, ils disent, on veut bien qu'on les transfère de nouveau, mais ils veulent pas avoir 10 enfants. Ils veulent avoir en général 1 ou 2 enfants. Et on leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire des autres ? Est-ce que vous voulez les donner à la science ? Est-ce que vous voulez les donner à un autre couple ? Ou les détruire ? Bon, c'est des questions, c'est toutes des questions absolument impossibles. Alors, les hommes et les femmes réagissent d'ailleurs souvent différemment. Ouais. Les hommes sont plus enclins, enfin, dans mon expérience, à les donner à la science, alors que les femmes n'ont pas envie de... sont plus partagées. En même temps, les donner à un couple qui habite dans le même quartier que vous, c'est prendre le risque, c'est quand vous vous arrêtez au relais Courtepaille sur l'autoroute, vous risquez de rencontrer des enfants qui ressemblent aux vôtres.
Mmh. Donc, bonne raison. Donc c'est troublant.
C'est très troublant.
Ça pose des questions.
Ça pose la question du tabou de l'inceste. Parce que ce sont des enfants qui ont plus ou moins le même âge que les vôtres et qui sont des vrais frères et sœurs.
Oui.
Alors, ce sont des questions qu'on ne pose, qu'on n'aborde pas, oui, en général.
Il y a des jolies expressions, d'ailleurs, que vous donnez. Ça peut être des enfants possibles.
Hein. Des enfants possibles, oui.
Plutôt que d'appeler ça, justement, des embryons
enfants
congelés.
Oui, des enfants possibles.
Ou surnuméraires.
Ou des jumeaux d'étuves. Ouais. Ils ont été conçus le même jour.
C'est moins heureux. Hein.
C'est moins heureux.
C'est moins heureux.
C'est moins heureux.
Les enfants possibles.
J'aime beaucoup cette expression des enfants possibles, parce que ce ne sont pas forcément... Un embryon ne va pas forcément se nider, donner lieu à la naissance d'un enfant. Il y a des chances, mais ce n'est pas sûr.
Geneviève Delézide-Perceval, on va écouter l'extrait d'un reportage réalisé par Lucie Sarfati en 2010 autour du don d'ovocytes, avec un reportage qu'elle avait appelé le tourisme procréatif. Alors on va comprendre pourquoi, puisqu'elle a rencontré Véronique, qui a 40 ans. On lui a annoncé qu'il fallait qu'elle se tourne vers le don d'ovocytes, évidemment, à l'étranger. Lucie Sarfati l'a rencontré, voici ce qu'elle lui a raconté.
Suite à des problèmes d'infertilité et ayant eu plusieurs fécondations in vitro qui n'ont pas forcément abouti, juste des débuts de grossesse, le jour de mes 40 ans, on m'a annoncé qu'il fallait que je pense à m'orienter vers le don d'ovocytes. Et donc c'est par l'intermédiaire, parce qu'en France, effectivement, il n'y a pas tellement de solutions, donc ils nous orientent systématiquement vers l'étranger.
Qui vous a orienté vers le don d'ovocytes à l'étranger ?
C'est mon gynécologue qui me suivait à l'hôpital. Elle m'avait parlé de l'Espagne, mais elle m'avait dit que du fait que c'était à l'étranger, ils ne pouvaient pas nous suivre. Donc il fallait qu'on se débrouille un peu tout seul. Donc c'est en pianotant sur, en fin de compte, l'ordinateur et en regardant les associations concernant le don d'ovocytes. Il y avait l'association Maya qui m'a permis de faire rapidement, puisqu'en avril j'ai appris qu'il fallait que je passe mon ovocyte et en novembre je pouvais faire ma première tentative en République tchèque. À l'époque, en République tchèque, il fallait compter 2500 euros, alors qu'en Espagne, il fallait compter au moins 6800 euros. Effectivement, on peut faire une demande de prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Et la plupart du temps, ils l'accordent, mais il faut le faire avant les 43 ans. Je ne le savais pas, je ne l'ai pas fait pour la première, j'ai fait après pour les autres. Et là, on propose une quatrième tentative.
Et votre mari, comment est-ce qu'il vit tout ça ?
Mon nouveau mari, j'ai de la super chance. Il a toujours été là pour me soutenir, alors que bon, ça demande certains sacrifices financier. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'acheter parce qu'il faut quand même mettre l'argent, non seulement effectivement pour le traitement, mais aussi le temps qu'on est logé là-bas pour se nourrir et puis payer les billets d'avion et tout. Je pense qu'il faut des couples forts et des fois c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça a été en partie la cause de l'échec de mon premier mariage.
Voilà, témoignage donc de Véronique au micro de Lucie Sarfati, Geneviève Delézide-Perceval. Ça fait totalement écho d'ailleurs à des personnes bien sûr que vous avez rencontrées, parce que pour un couple aussi, c'est une aventure, c'est un parcours du combattant dont on sort parfois avec, en y laissant beaucoup de plumes.
Hein. Beaucoup de plumes, de l'argent en moins, des kilos en plus pour la femme.
Mm-hmm.
Et beaucoup de souffrance et quelquefois des couples qui se cassent, comme le dit cette dame au micro de Lucie Sarfati. Elle dit que son premier couple y est resté.
Ouais. Cas emblématique en tout cas de la bioéthique à la française, c'est-à-dire que le don d'ovocytes étant interdit dans notre pays, en tout cas on va ailleurs comme en Espagne, à quelques kilomètres de chez nous.
Il n'est pas interdit, il est Il est permis, mais impossible.
Oui.
C'est plus pervers, puisque la loi de 1994 l'autorise. Mais il n'y a pas de donneuse, ou très peu. Donc, comme il n'y en a pas, ou 3 ans, 24 ans, ça n'a aucun sens. Donc, ça pousse au tourisme procréatif, comme le dit votre collègue.
Virginie nous dit ceci, on ne demande pas une AMP totalement débridée qui ferait tout et n'importe quoi, mais bien des évolutions réfléchies. Surtout, nous pensons que cette question de l'infertilité doit être envisagée d'une façon bien plus large que le seul problème privé d'un couple, car bon nombre de couples infertiles le sont à cause de la dégradation de notre environnement. Qu'est-ce que vous répondez
Oui,
à Virginie.
C'est ce que disent les scientifiques. La spermatogénèse chez les hommes baisse. Les femmes sont ménopausées beaucoup plus tôt que 20 ans avant. Il y a le problème des pesticides, toutes les cochonneries qu'on a dans nos jus de fruits, nos plats préparés, etc. Non, mais c'est sûr, un problème d'environnement.
Allez, on se retrouve dans un instant, Geneviève Delizy-Perceval, avec Israël Nizan, qui sera avec nous depuis les studios de France Bleu Alsace, et les questions des auditeurs. Franceinter.fr et puis également les réseaux avec le hashtag l'attaque. Le temps d'écouter Christine and the Queens, et c'est Christine justement.
Je commence le livre par la fin, j'ai le manteau au bourrin, rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient.
Christine and the Queens, à l'instant sur France Inter. Geneviève Delizy-Perceval, voyage au pays des infertiles, sort chez Odile Jacob, vous êtes notre invitée. Et puis Israël Nizan, avec nous depuis France Bleu Alsace, dans les studios de Strasbourg. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu, Israël Nizan, d'abord dans la première partie de notre échange avec Geneviève Delizy-Perceval? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez envie de discuter?
Oui, il y en a tout plein. Et d'abord, je voudrais la féliciter d'avoir écrit ce livre dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, surtout parce qu'elle est cash et qu'elle parle d'elle. Et qu'il y a tout un tas de choses qui diminuent la distance qu'il y a entre l'opinion publique et les patients qui sont en demande de traitement. Et donc, merci Geneviève d'avoir écrit ce livre, mais je trouve que vous êtes une psychanalyste hors norme.
Ben, c'est ce qu'elle disait d'elle-même, d'ailleurs, tout à l'heure.
Oui, je suis une ovni.
Et d'ailleurs, ça me permet ma première question, parce que vous écrivez à un moment que les psychanalystes devraient tous faire de l'ethnologie, oui. Et qu'ils ont un modèle de la famille datant du temps de Freud, en total décalage avec la modernité, surtout dans le champ de l'AMP. Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que la psychanalyse a un décalage, un logiciel qui ne serait plus adapté à notre époque ?
Eh bien, je le pense un peu. Ça demanderait une discussion un petit peu plus longue que celle de maintenant. Mais oui, je pense qu'en effet, pour reprendre votre expression tout à fait judicieuse, il y a un logiciel qui n'est plus adapté. Par exemple, toute la question des donneurs de gamètes, qui sont finalement, que moi j'appelle des cogéniteurs, parce que je pense que ce ne sont pas des étalons ni des poules pondeuses. Ça n'existe pas dans le logiciel de la psychanalyse. Il y a un père, une mère. Sinon, il y a un amant éventuellement, mais il ne s'agit pas de ça du tout. Donc oui, je suis d'accord avec vous.
Alors j'aimerais qu'on évoque avec vous également, Israël Nizan, cette actualité venue des États-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait encore beaucoup couler. Il s'agit de la proposition d'Apple et de Facebook, entre autres, de faire payer la congélation des ovocytes de ses employés qui souhaitent se concentrer d'abord sur leur carrière. On est dans ce qu'on appelle la procrastination procréative. Geneviève Delezide-Perceval, vous avez donné votre réponse sur le sujet dans les colonnes de Libération hier. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, je pense que c'est très très ambivalent. Ce qui est l'idée, comme ça peut paraître assez sympathique, mais ça laisse penser à ces jeunes femmes qui acceptent que leurs ovocytes soient congelés à 30 ans, qu'à 40 ans, quand elles seront prêtes, quand elles auront fait leur carrière, elles pourront faire des filles et que ça marchera. Or, j'ai regardé sur les chiffres des sites médicaux américains, à 40 ans, dans ce cas-là, ça marchera pas bien du tout. Ça marchera, je crois que le chiffre, c'est 14,2%. Donc, elles auront gardé l'illusion pendant 10 ans qu'elles pourront avoir des enfants. Et puis, au bout du compte, si on veut prendre un scénario terrible, elles feront appel à un don d'ovocytes.
Oui, et alors on peut faire congeler ces ovocytes d'ailleurs en Espagne par exemple.
Oui, absolument.
Ça coûte très cher.
Oui, 4 000 euros.
Donc c'est ce que proposent de faire justement Apple et Facebook. Israël Nizan, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que la congélation d'ovocytes est un droit pour les femmes, comme ça l'est d'ailleurs pour les hommes, et que ça fait partie de leur vie intime, pas de la vie de leur DRH. Là où c'est extrêmement suspect, c'est que des boîtes comme Apple et comme Facebook ont mis énormément d'argent dans les sociétés de biotechnologie et qu'elles ont un double intérêt, un double conflit d'intérêts. Le premier, c'est qu'on fasse marcher ces boîtes de biotechnologie parce que ça leur rapporte. Et le deuxième intérêt, c'est que les femmes, au moment de leur plus grande productivité, soient au travail. On peut bien imaginer d'ailleurs que quand elles voudront faire un enfant de manière naturelle alors qu'elles auront congé leurs ovocytes, on leur dit ah ben non, mais alors là ça condamne votre avancement, etc. Donc je vois moi un commentaire à faire, c'est que dans notre pays on vient d'autoriser les femmes à congeler leurs ovocytes à deux conditions, qu'elles aient eu un cancer ou qu'elles en donnent à d'autres, ce qui est pervers. Alors que aux États-Unis, on a accepté l'idée que ça fasse partie du droit des femmes. Alors la question, c'est qui paye, mais c'est une autre question.
Et on repousse sans cesse l'âge de la maternité aussi, ça veut dire ça concrètement.
Oui, on procrastine.
Oui, mais il y a aussi des risques pour les femmes. Enfin, ça représente en tout cas des difficultés au niveau biologique israélisant de repousser sans cesse aussi cet accès à la maternité.
Il ne faut pas accuser les femmes de quelque chose qui est dû à la société. Les femmes arrivent à un CDI en moyenne à 28 ans et c'est pas leur faute. Et on leur a dit la norme pour faire un enfant, c'est quand t'as un enfant, quand t'as un travail et que tu t'es stabilisé sur le plan familial. Donc elles ne font qu'appliquer des normes qui leur sont imposées par notre société. Et on voit dans nos consultations effectivement des femmes qui ont accompli leur carrière, gentiment et qui viennent demander une grossesse et qui sont en insuffisance ovarienne. Donc, très clairement, il m'arrive régulièrement de voir des femmes, en particulier dans le milieu de l'audiovisuel, qui disent « Moi, je présente le journal télé, je n'ai pas le temps de m'occuper de trouver un mari pour l'instant, hein. C'est pas le moment. Et, ouais. j'ai voulu congeler mes ovocytes et on m'a dit « Allez vous faire voir à l'étranger ». C'est inacceptable.
Geneviève Delizy-Perceval, on aimerait bien savoir ce qu'en pensent les femmes françaises aussi de cette proposition de ces multinationales américaines.
On serait peut-être
surpris d'ailleurs.
C'est ce que nous menons une recherche à l'hôpital Cochin avec des jeunes femmes dans toutes les tranches d'âge.
Oui.
Et ce ne sera pas forcément du tout le même contexte que ce que diront les Américaines. Et puis en plus, il y a un contexte très particulier, c'est les boîtes d'audiovisuel. Est-ce que Renault ou... le contexte est différent. Il ne faut pas avoir d'idées toutes faites. Il faut écouter ce qu'elles ont à dire.
Alors, dans votre livre, vous parlez d'un autre exemple. C'est un couple qui est marié et qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Et du coup, ils souhaitent avoir un enfant par FIV, même si, on le comprend, ils sont tous les deux parfaitement aptes à la procréation. Ça, ce sont des exemples que vous croisez régulièrement ou pas ?
Assez souvent, oui.
Ouais. Israël Nisan, vous aussi ?
Oui. Et j'étais content de voir que Geneviève Delizy-Perceval avait une position proche de la nôtre, puisque nous prenons en charge, bien sûr avec l'aide de nos psychiatres, ces couples, pour qu'ils puissent avoir un enfant. Et souvent, ils viennent nous dire « Mais nous, notre sexualité nous convient. Ne nous embêtez pas avec ça. On veut un enfant. Aidez-nous. » Et donc, je trouve que Geneviève a une position très, très claire à ce sujet. C'est bien. C'est bien de l'exprimer.
Et de votre côté, donc, aussi, vous aidez ces personnes qui pourraient donc avoir des enfants sans trop de problèmes, mais qui font le choix donc de la non-sexualité, en fait.
Enfin, sans problème, il y a souvent un problème de sexualité tout court. Il y a une impuissance, une frigidité, une difficulté de pénétration. On ne peut pas dire que les gens se résolvent facilement à ne pas avoir de rapport sexuel. Souvent, ce n'est pas possible pour des raisons sexologiques.
Ouais.
Mais ils n'ont pas de demande de traitement sexologique. Ils nous demandent de les aider à avoir un enfant.
Geneviève Delizy-Perceval.
Oui, moi, ce couple dont je parle, puisqu'il était dans ma tranche de 9 mois, c'est des gens qui sont tout à fait équilibrés et qui ne souffraient pas apparemment de problèmes sexuels. Et en tout cas, l'idée d'aller voir un sexologue. Et ils disaient, mais enfin, nous serons des parents tout à fait acceptables. En quoi est-ce que vous nous refusez et d'ailleurs, dans l'histoire que je raconte, le gynéco a fini par céder. Au départ, il les a envoyés. Ils ont arrêté les entretiens avec moi, ce qui ne m'a pas étonné. Et ils sentaient qu'ils arrivaient ils arriveraient à faire céder le gynéco. Mais ils sont revenus après.
La question du double don de gamètes, alors moins connu là encore. En France, le recours au double don est interdit par la loi, vous le confirmez, donc qui permet de fabriquer un embryon avec deux donneurs inconnus, alors que la loi autorise le recours au don de sperme ou au don d'ovocytes. Vous y êtes favorable ou pas, vous, Geneviève Delizy-Perceval ?
Oui, enfin, je trouve que c'est une solution qui est tout à fait intéressante et qui est, si on compare avec l'accueil d'embryons, puisque ces couples qui ont une double infertilité, on leur dit, mais on peut vous transférer un embryon tout fait, qui est l'embryon de quelqu'un d'autre. Et nombre d'entre eux, et notamment beaucoup de couples de médecins que j'ai vus, sont absolument horrifiés qu'on leur propose l'enfant de quelqu'un d'autre, même si c'est encore à l'état d'embryon. Et ils disent, mais non, nous, on voudrait un enfant conçu pour nous. Ce à quoi on leur répond, mais c'est de l'égoïsme, etc. Je vois pas en quoi c'est de l'égoïsme de vouloir avoir un enfant pour soi.
Israël Nisan, votre position là-dessus ?
À nouveau, la loi de la France a été faite de manière perverse. Il s'agissait de vider les cuves de tous les embryons congelés surnuméraires. Et quand la loi est sortie, on a complètement oublié ce que Geneviève explique très bien dans son livre. C'est qu'un embryon congelé, il a des petits frères et des petites sœurs. Et il vient d'une famille et une histoire. Alors qu'un enfant issu du double don a été conçu pour ce couple. Et il est unique, il n'a pas de frères et sœurs. Et la différence est substantielle. Et beaucoup de gens aujourd'hui la voient. Ils ne veulent plus de dons d'embryons.
Ouais. Cécile nous envoie ce message. Est-ce que vous voyez des femmes qui se lancent seules dans la PMA en Belgique ou en Espagne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Israël Nisan, peut-être, pour commencer ? Puisque vous n'êtes pas loin de ces frontières belges, en tout cas.
Je pense qu'à titre personnelle, ma vision, puisque Geneviève parle beaucoup d'elle, moi, ma vision, c'est que élever un enfant, c'est déjà difficile, mais encore plus difficile si on est seul. Et je suis un petit peu choqué par la demande de femmes seules qui disent bah, « Écoute, j'ai trouvé personne, et maintenant, là, j'avance, et je voudrais mon enfant. » ça me choque un petit peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obtempérer, mais je crois que c'est véritablement un mal du siècle et que ce n'est pas tout à fait une bonne chose. Mmh. Je suis par contre très favorable aux femmes homosexuelles qui vivent en couple, qui font cette demande. Mais les femmes seules, ça me choque un peu.
Alors, j'ai une position très proche de la vôtre, cher ami. Mais c'est juste un commentaire, c'est que ces couples... ces femmes seules ont pour modèle l'adoption qui, en France, est autorisée aux parents seuls, notamment aux femmes seules, depuis 1966. Donc, elles disent, puisqu'on permet à une femme seule d'adopter, pourquoi est-ce qu'on me permettrait pas, moi, d'avoir un enfant par PMA ? Et je suis, moi aussi, assez réticente. Alors, je veux dire que je les aide au cas par cas, et quand je pense que je peux pas les aider, je leur dis.
Mourka nous dit ceci, personnellement j'ai préféré écouter mon corps, ce n'est plus le moment, dit-elle, pour un enfant, c'est comme ça, c'est la nature. J'ai trouvé que les spécialistes poussent vers l'intervention et pas du tout vers l'acceptation.
L'acceptation de quoi ? De l'infertilité ?
De ne pas avoir d'enfant, oui. Voilà.
Oui, mais ça c'est un petit peu facile à dire, parce qu'on dit vous n'avez qu'à faire votre deuil d'enfant. Oui, on ne fait pas son deuil d'enfant en claquant dans les doigts comme ça. Oui, on peut faire son deuil d'enfant, ça demande un travail, un vrai travail, comme un travail de deuil, au sens où le travail quand on perd quelqu'un. Moi je comprends qu'on veuille avoir un enfant. Pas dans n'importe quelle condition, mais c'est difficile d'y renoncer. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Israël Nizan.
Je ne pense pas que les spécialistes poussent à la roue.
Non, moi non plus, je ne pense pas.
Je ne le crois pas. Elle est peut-être mal tombée, mais je ne pense pas qu'ils poussent à la roue dans ce domaine-là, d'autant que la France est très mal armée.
Oui, absolument.
Israël Nizan, on peut terminer pour dire qu'il y a un rendez-vous à Strasbourg, je crois que c'est en février prochain, sur les questions de bioéthique, c'est ça, hein, le Forum européen de la bioéthique. Un mot avant de vous quitter là-dessus ?
Oui, l'ambition, c'est de mettre à la disposition du grand public les enjeux de la bioéthique. Et l'année dernière, on a eu 20 000 personnes, ce qui montre qu'il y a une vraie appétence du public pour ces questions dont il est privé. Et ça, Geneviève le fait aussi remarquer dans son livre. Il n'y a pas de débat sur la bioéthique dans notre pays. Et si ce n'est des manifs dans la rue où on hurle contre la PMA, la GPA en mélangeant tout, c'est dommage parce que le public français... a le droit et mérite qu'on leur explique les choses correctement. Et c'est ce que nous faisons à Strasbourg.
Et donc, ce sera en février prochain, forum-européen-bioéthique.eu. C'est en lien sur le site de la Tête au Carré. En attendant, Geneviève Delezit-Perceval voyage au pays des infertiles. 9 mois dans la vie d'une psy, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu dans la Tête au Carré. Et merci à vous, Israël Nizan, et aux équipes de France Bleu Alsace.
Je vous remercie beaucoup, Israël Nizan.
À bientôt.
Cher ami. Sunshine. Give up yourself until the morning. That time.
Time is now avec Moloko sur France Inter. En route pour le quiz de la tête au carré avec Florence Porcel qui nous a concocté deux nouvelles questions. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Vous nous présentez les deux nouveaux candidats aujourd'hui.
Mais oui, nous accueillons Daniel et David. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Florence.
Bienvenue à tous les deux. Daniel, vous habitez à Châteauneuf dans la Côte d'Or.
Voilà, c'est cela, oui.
Et je vois que vous êtes pré-retraité.
Oui, hein, donc c'est, oui. Ça veut dire que j'ai plus d'activité professionnelle.
Laissez-moi vous présenter David, qui est avec nous également et qui habite dans les Vosges. Donc ce sont des auditeurs de l'Est hein, qui sont oui. avec nous aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour, oui, c'est ça.
Et vous êtes à Mousset.
Mousset dans les Vosges, oui.
Mousset, oui. Vous êtes jardinier.
Je suis jardinier au château de Mousset.
Bienvenue à vous deux. On va donc commencer tout de suite avec la question d'actualité. Et nous allons jouer pour gagner des cadeaux, bien sûr, Florence.
Mais bien entendu, on offrira aux gagnants le boîte de jeu de la tête au carré et un grand atlas géographique.
La question d'actualité au sujet, Daniel et David, d'une équipe de scientifiques qui a annoncé la découverte très récemment des restes d'un pré-néandertalien, équipe française. Mais malheureusement, seuls quelques os sont parvenus jusqu'à nous, quelle partie du corps de cet individu a été retrouvée? Vous avez 30 secondes pour nous répondre.
Une partie du bras.
Alors vous avez une bonne partie de la réponse, ben, hein, David. Oui. On peut considérer que c'est une bonne réponse.
Que c'est une bonne réponse.
Hein. Allez, on arrête le chrono. Vous avez remporté les premiers points. On va vous préciser la réponse.
Points. Oui, alors il s'agit du bras gauche. C'est en bord de Seine, à 15 km de Rouen, que les chercheurs ont trouvé l'humérus, le radius et le cubitus d'un individu de sexe indéterminé âgé d'environ 200 000 ans. C'est une découverte majeure puisque c'est seulement la deuxième fois qu'on trouve des restes humains datant du Pléistocène moyen au nord de la Loire. Alors les chercheurs espèrent y trouver un peu d'ADN, notamment pour déterminer le sexe de celui qu'ils ont baptisé par défaut, l'homme de Tourville-la-Rivière.
Voilà, et c'est grâce à ce pré-néandertalien David que vous marquez 10 points.
10 points pour vous.
Très bien.
Voilà, mais Daniel n'a pas dit son dernier mot. Tout est possible avec les questions de rapidité. Vous connaissez maintenant bien le principe, j'imagine. Vous avez 1 minute 30 pour répondre donc évidemment le plus vite possible à ces 7 questions par ordre croissant de difficulté. Daniel, est-ce que vous êtes prête?
Oui.
David également.
Oui.
On envoie le chrono, c'est parti. Comment s'appelle le nuage qui peut ressembler à un chou-fleur?
Qu'est-ce que vous cumulus.
Voilà, cumulus, David, bonne réponse. Quel nom porte l'échelle sismique de référence qui évalue l'énergie d'un séisme?
L'échelle de Richter.
Bonne réponse, David. Quelle célèbre psychanalyste française répondait aux lettres des auditeurs dans l'émission Lorsque l'enfant paraît? Daniel, c'était sur France.
Dolto.
Voilà, Françoise Dolto sur Inter. Mmh. Comment appelle-t-on le changement direct d'un état solide à un état gazeux? Ça commence à se corser.
La gasification.
Pardon, Daniel?
La gasification.
Non, David?
La fusion ?
Non. On va passer à la cinquième question, on va y revenir. En quelle langue étaient écrits les plus anciens documents que l'on ait conservés ? Alors langue morte.
Égyptien,
non. Langue qui est apparue autour de 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne langue écrite connue. Allez, on passe à la question suivante. Quel oiseau est considéré comme le plus rapide du monde en piqué?
L'aigle, le piqueur. Non.
Qu'est-ce que vous nous disiez, Daniel?
L'aigle.
Non. Allez, je vous pose la dernière question. Quel entrepreneur milliardaire sud-africain, fondateur de Telsa et de SpaceX, ambitionne de créer une ville sur Mars? Entrepreneur milliardaire sud-africain qui s'appelle Florence, fallait le connaître celui-là aussi.
Il s'appelle Elon Musk, c'était la dernière question, la plus compliquée.
Ouais. Voilà.
C'est une superstar aux États-Unis.
Il a inspiré la version cinématographique d'Iron Man au cinéma.
Il est moins connu en France. Hein.
Oui, cofondateur de PayPal, pourtant.
Alors, la quatrième question non plus n'avait pas de réponse. Comment appelle-t-on le changement direct d'un...
La sublimation.
Voilà, état solide à état gazeux, David. Dommage, hein. C'était
Mais
trop
oui,
tard.
Dommage.
En quelle langue étaient écrits les plus anciens documents que l'on ait conservés, Florence ?
En sumérien.
Eh oui, Daniel.
Ah, vous l'aviez.
Dommage, tout ça arrive après le chrono. Et puis enfin, quel oiseau est considéré comme le plus rapide du monde en piqué ?
C'était le faucon pèlerin, c'était bien un rapace.
Voilà, on a enregistré un piqué à 389 km/h
oui,
en
2005.
Voilà, donc on fait le calcul des points. Florence, ça nous donne quoi ?
Alors, ça nous donne 10 points pour David et 5 points pour Daniel. Donc 20 points en tout pour David, pour le moment.
Allez, on termine avec le mot mystère. On vous a donné un mot juste avant de commencer ce jeu. Vous avez donc 45 secondes pour le faire découvrir à votre adversaire, mais néanmoins camarade de jeu. Oui. On commence avec qui, Florence ?
Avec Daniel, par exemple.
Daniel, vous êtes d'accord ?
Oui, tout à fait. Alors, David,
allez, on lance le chrono.
C'est la pièce d'un moteur à combustion de forme circulaire à l'intérieur de laquelle une autre pièce déplace le volume d'air engendrant la variation de la pression.
Bah, bravo.
C'est,
hein. On en trouve dans les moteurs à explosion.
Un piston.
Non.
Une bielle.
Est-ce que vous avez d'autres éléments, Daniel ?
Le piston est la pièce qui se déplace à l'intérieur.
Ouais, pensez au rouleau.
Oui.
Pensez à la courbe.
Un vibroquin.
Non.
Ah, mince. Ça m'échappe. Bon.
Daniel va vous donner la réponse.
C'est un cylindre.
Vous aviez une bonne définition, hein. C'était parfait. Hein. Vous aviez tout ce qu'il fallait, mais après, on était un petit peu en panne, justement, pour trouver ce cylindre. Voilà, donc pas de point pour David sur cette manche. David, 45 secondes également pour faire découvrir le mot mystère à Daniel. Et on lance le chrono, c'est à vous.
C'est parti. Donc, c'est un processus chimique qui se produit, par exemple, lorsqu'on laisse pourrir des fruits dans un milieu anaérobie. Donc, dans le but de faire de l'alcool, donc dans ce cas-là, le sucre se dégrade pour se transformer en alcool.
Oui.
C'est souvent par l'action des bactéries dans un milieu sans air.
Daniel, vous n'avez pas d'idée du tout, là, à ce stade ?
L'éthanolisation ?
Oh non, c'est presque plus simple.
Oui, oui, oui.
Non. Ça se produit aussi quand on fait de la choucroute.
La transformation du sucre en alcool ?
Je dirais l'alcoolisation, mais je ne trouve pas d'autres termes là.
On est très très proche.
Voilà, on l'utilise aussi dans la fabrication des fromages.
La fermentation, Daniel. Vous êtes allé
chercher
loin. Presque trop loin, effectivement. C'était plus simple. Qui permet également le biogaz, gaz produit, et le stress aussi.
Et le stress aussi.
C'est la fermentation des cellules nerveuses, ça peut être. Alors, on fait le total des points, Florence, mais je crois que c'est toujours une avance de David.
De David, qui remporte ce jeu avec 20 points. Toutes nos félicitations, David, vous êtes notre gagnant
Merci
du jour.
Beaucoup.
Voilà, vous allez recevoir donc la boîte de jeu de la tête au carré, qui est sortie il y a quelques jours aux éditions Marabout.
Exactement, pour jouer avec vos amis, si vous voulez, et le grand atlas géographique du monde et des éditions Atlas, voilà, pour réviser votre géographie.
Ouais, c'est parfait, merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, merci, vous êtes bonne joueuse, Daniel.
Oui.
Et puis on vous souhaite une excellente journée. On invite tous ceux qui nous écoutent à s'inscrire également pour jouer tout comme vous.
Sur le site de l'émission, sur franceinter.fr.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Au revoir. Et un nouveau rendez-vous à partir d'aujourd'hui dans vos kiosques, un nouveau numéro de la collection du Monde, Grandes idées de la science, qui explore la vie des grands physiciens et mathématiciens. Cette semaine, Max Planck et la physique quantique. Bien qu'on le considère souvent comme un révolutionnaire, Planck a toujours fait preuve d'un grand conservatisme. En 1900, il formule cependant l'hypothèse selon laquelle l'énergie n'est pas émise de façon continue, mais sous la forme de paquets ou quanta, une théorie pour le moins radicale, d'où naîtra une branche entière nouvelle de la physique, la mécanique quantique. Ayant donc l'infiniment petit pour champ d'action, elle constituait avec sa lointaine cousine, la relativité, le socle de la vision moderne de l'univers. On en parlait hier dans l'émission. Certains des principes qui la fondent sont si obscurs que Planck lui-même s'avouera dépassé par les conséquences de ses découvertes. Son long dévouement pour la science allemande et ses extraordinaires qualités scientifiques en font pourtant le maître parmi les maîtres. Durant les années sombres du nazisme, il s'efforce de garder vivante la flamme de la raison entre insoumission, compromission et tragédie personnelle. C'est ce que vous allez donc découvrir en lisant Max Planck et la physique quantique, la révolution l'évolution de l'infini, mon petit, un ouvrage de la collection Grandes idées de la science proposé par Le Monde en partenariat avec La Tête au Carré et à retrouver en kiosque dès aujourd'hui. J'ai presque l'impression de faire du Fabrice Drouel tout d'un coup. Hein.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Maître Vida ?
Affaire sensible dans un instant, vous racontez des histoires, Fabrice. Mais c'est bien de ça dont il s'agit.
C'est vrai, aujourd'hui, vie et mort de la 5 et nous recevons François Cussé, historien des idées, qui a écrit le livre La décennie, le grand cauchemar des années 80. Et je vous dis ça parce que la 5 est très emblématique de ce qu'étaient les années 80. Qu'était-elle ? Vous le saurez en écoutant Affaires Sensibles.
Après les infos.